Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Céline Guillaume.
Possiblement, à la fin de cette émission, 600 personnes dans le monde auront été touchées par un accident vasculaire cérébral. L'AVC dont nous parlons aujourd'hui représente une urgence médicale absolue. Résultant d'une interruption de la circulation sanguine due à l'obturation d'un vaisseau sanguin ou la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau, il est la deuxième cause de décès à l'échelle mondiale. Sa prise en charge doit intervenir sans délai car privé d'oxygène, environ 2, 3, voire 4 millions de neurones meurent chaque minute. Les risques de dommages irréversibles et de séquelles invalidantes sont importants. Mais pour appeler les secours, il faut d'abord savoir reconnaître les premiers signes d'alerte soudain. Déformation de la bouche, faiblesse ou paralysie d'un côté du corps, trouble de la parole, de la vision, mal de tête inhabituel, brutal, engourdissement du visage, fourmillement dans les bras, les jambes. Le réflexe, appeler les secours, le 15 par exemple pour le SAMU en France, ou le 112, numéro d'urgence européen. Et en cas de doute, les professionnels de santé sont unanimes, mieux vaut appeler pour rien qu'appeler trop tard. Nous sommes le 29 octobre, journée mondiale de l'AVC. Dans Priorité Santé, nous saisissons cette date pour prévenir, sensibiliser et participer à cet effort collectif pour faire reculer les chiffres trop souvent vertigineux. Je vous présente nos invités, le docteur Michel Logac. Bonjour docteur Logac. Bienvenue dans Priorité Santé. Vous êtes chef de service adjoint du service de neurologie et neurovasculaire du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Nous sommes aussi avec Margot. Bonjour Margot.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez 34 ans, vous êtes professeur d'art plastique. À 33 ans, vous avez été victime d'un AVC, vous allez nous en dire plus et même beaucoup plus. Merci pour votre participation d'ores et déjà à cette émission et pour ce témoignage. Se joindront également à nous au cours du rendez-vous Emmanuel Knappen, masseur kinésithérapeute, directeur de soins de rééducation au centre de rééducation et de réadaptation Jean Calvé, c'est à Berck-sur-Mer dans les Hauts-de-France, et le docteur Seibou Hassan Diallo, qui lui est neurologue au CHU Gabriel Touré à Bamako, au Mali donc.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Logac, on ne cesse d'entendre que 80% des AVC pourraient être évités. Ce chiffre est énorme, il est porteur de beaucoup d'espoir. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
C'est tout un problème de la prévention qui n'est pas forcément optimale dans nos pays. Les facteurs de risque vasculaire ne sont pas tous bien pris en charge. Et le principal et le premier d'entre eux dans l'accident vasculaire cérébral, c'est l'hypertension artérielle. Je peux être hypertendu, vous pouvez l'être sans le savoir. Et si vous n'avez pas une certaine rigueur, vous ne faites pas prendre votre tension quelques fois dans l'année, vous ne pouvez ne pas le savoir. Et c'est le facteur essentiel qui prévaut dans cette maladie.
Donc la recommandation, c'est de suivre quasiment au quotidien.
Non, pas au quotidien, mais une ou deux fois par an, prendre sa pression artérielle, ça peut être suffisant. La médecine du travail aussi, dans les entreprises, peut jouer un rôle tout à fait bénéfique. Bien sûr, il y a les autres facteurs de risque aussi, le tabac, le diabète, le cholestérol, mais l'hypertension est vraiment, s'il n'y avait qu'un facteur à retenir, le facteur principal.
Ce serait celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'un AVC ? Pourquoi survient-il ?
Comme vous l'avez dit, un accident vasculaire, c'est une pathologie artérielle du cerveau qui soit s'obstrue, soit se rompt. Le plus souvent, elle s'obstrue, elle s'occlut. Et pourquoi survient-il ? C'est parce qu'il y a un caillot qui se forme, soit à partir d'une artère malade, comme une artère carotide, soit à partir d'un cœur aussi pathologique qui envoie un caillot qui arrive au cerveau et qui bouche une grosse artère.
Nous avons cette question de Pascal à Kinshasa. Lequel de ces AVC est le plus inquiétant ? L'AVC ischémique ou hémorragique ?
Alors, en termes de mortalité, l'accident hémorragique est plus inquiétant parce que il est associé à une plus forte mortalité que l'accident vasculaire cérébral ischémique.
Qu'on sait moins bien le prendre en charge
parce
aussi.
On peut bien moyen le prendre en charge et puis il est à l'origine d'une énorme hyperpression dans la tête, hyperpression intracrânienne, et chez l'adulte, le crâne est inextensible et donc on peut souvent pas résister à cette énorme élévation de pression. L'accident vasculaire ischémique est souvent plus insidieux, mais attaché à une moindre mortalité. Pour autant, il est aussi pourvoyeur d'importantes séquelles, donc dans les deux cas.
Et quels sont ces signes d'alerte qui doivent nous pousser à réagir très vite et appeler les urgences ?
Donc c'est une rupture dans votre vie motrice, dans votre vie relationnelle qui survient de manière aiguë. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit une difficulté à s'exprimer, à parler, qui est inédite, soit un trouble moteur, même modéré, même minime, de la main, du pied, de la bouche, et puis d'autres signes, les troubles de l'équilibre, les troubles de la vision, qui peuvent survenir, avec ou sans mal de tête. Ça fait pas toujours mal, et c'est un des problèmes dans cette maladie.
C'est qu'on n'a pas toujours mal, donc on ne se rend pas toujours compte.
Que c'est grave, que ça peut être grave, absolument.
Nous sommes en compagnie de Margot. Elle a eu un AVC alors qu'elle avait 33 ans. Dans un instant, elle va nous en dire plus. Je vous pose cette question avant de l'accueillir, docteur Logac. Est-ce que l'âge, le jeune âge, ne prémunit pas de ce type d'attaque?
Non, le jeune âge ne prémunit pas de ce type d'attaque. C'est sûr que le poids de l'âge et le poids des ans jouent un rôle important et c'est une maladie qui est plus fréquente chez les gens plus âgés. Mais des gens jeunes, des femmes jeunes, des hommes jeunes, des enfants même, peuvent être victimes d'un accident vasculaire cérébral. Et donc, nul n'est à l'abri.
Margot, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui, Margot ?
Très bien, très bien. Je suis un peu stressée, donc je risque de pas très bien parler au début, mais ça va.
Et surtout, vous allez vous rendre compte que vous êtes en très bonne compagnie et le stress va vite s'envoler. Pourquoi avoir accepté de raconter votre histoire ? Elle est à la fois difficile, intime, mais elle est aussi belle sous certains aspects. On va en parler. Pourquoi avez-vous accepté d'échanger ?
Parce que, alors déjà, je suis enseignante, enfin j'étais enseignante avant de tomber malade, et donc la pédagogie est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et je me suis dit qu'il fallait que je partage mon histoire. Alors au début, c'était surtout pour mon fils, pour qu'il comprenne pourquoi, alors qu'il était bébé, maman est partie pendant des mois à l'hôpital. Et puis finalement, quand j'ai commencé à raconter mon histoire sur les réseaux sociaux, eh bien beaucoup de gens ont commencé à m'écrire et à avoir besoin d'échanger là-dessus. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment de la pédagogie à faire dessus. Et je me suis dit que raconter mon histoire dans sa vérité crue allait forcément apporter à un public.
Dans quelles circonstances avez-vous été touchée par cet AVC ? Que faisiez-vous ? Que s'était-il passé les jours précédents ?
Alors, les jours précédents, j'ai eu des signes d'alerte que j'ai totalement négligé. J'ai eu ce qu'on appelle des accidents ischémiques transitoires, des AIT. J'en ai fait 4. Je ne m'en rappelle plus que deux aujourd'hui. Deux qui ont été très impressionnants et qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Mais comme j'étais une jeune maman fatiguée, que j'étais stressée par mon travail, j'ai cru bêtement que c'était de la fatigue et des migraines.
Alors juste un instant, je voudrais m'arrêter sur ce point et faire réagir le docteur Logac. Les AIT dont vient de parler Margot, finalement, présentent les mêmes signes d'alerte que les AVC, sauf qu'ils régressent.
Oui, et puis ils régressent très vite. Donc
voilà,
c'est vrai
donc ça peut faussement rassurer.
Oui, et ce que Margot dit est tout à fait habituel. Les accidents ischémiques transitoires, c'est une minorité de patients qui ont un AVC qui ont ces symptômes avant. Et puis, ils peuvent passer inaperçus, qui n'a pas eu mal à la tête, qui n'a pas bégayé un peu et cherché un mot. Et donc, c'est difficile parce que ça ne fait pas mal, on récupère complètement très vite.
Ça peut passer inaperçu.
Donc si on n'est pas alerté, si on n'est pas à l'affût de ce genre de symptômes, eh bien on ne vient pas consulter ou on n'appelle pas de l'aide.
Margot, il y a cette anecdote qui n'est finalement pas si anecdotique. Quand vous avez compris le jour en question qu'il se passait quelque chose de potentiellement grave, vous avez fait ce choix qui peut surprendre. Prendre une douche, vous laver les cheveux avant d'appeler les urgences.
Oui. En fait, j'étais déjà un peu incohérente et surtout je me disais, non mais en fait c'est pas possible, t'as 30 ans donc ça va, c'est pas ça là, tu es en train de t'inquiéter pour rien. Mais quand j'ai réalisé que peut-être il allait falloir que j'appelle les secours, je me suis dit, si tu les appelles, ça va durer longtemps, donc lave-toi, ne va pas à l'hôpital en pyjama, ça va durer peut-être des jours. Et oui, donc j'ai perdu du temps avant d'appeler le SAMU.
Docteur Logac, pourquoi est-ce si important de ne pas perdre une seule seconde au moindre soupçon d'AVC ou de circonstances potentiellement graves ?
Parce que ces dernières années, Il y a tout un maillage qui a été organisé pour prendre en charge rapidement ces patients avec des unités qui s'occupent de ça, que de ça, où il y a des médecins, des infirmiers, des aides-soignants qui n'ont comme patients que les gens qui ont un accident vasculaire. C'est ce qu'on appelle les unités neurovasculaires. Et ça s'est dispersé dans tout le territoire français. Et donc, évidemment, on les connaît pas quand on n'a pas été confronté à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut appeler le 15, qui vous oriente très rapidement vers cette unité dédiée où on va très vite pour faire au mieux d'abord une imagerie du cerveau, et puis peut-être essayer de déboucher les artères, si comme dans le cas de notre auditrice, c'est une artère qui s'est bouchée.
Et essayer de limiter
les dégâts cérébraux,
les dégâts effectivement.
Donc, il y a des médicaments, il y a des techniques mécaniques aussi, qui sont très, très, très utiles et très, très efficaces.
Et même si elles se sont montrées beaucoup moins efficaces sur des patients atteints du Covid, je ne sais pas si on aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler.
Mais il faut aller très vite après.
Quoi qu'il arrive, chaque minute compte.
Ouais. Et après 6 heures, 7 heures, on ne peut plus faire grand chose d'efficace.
Le pronostic est très mal engagé.
Voilà, c'est plus difficile.
Nous accueillons un premier auditeur dans cette discussion. Il s'agit de André à Pointe-Noire. Bonjour André.
Bonjour madame.
Nous vous écoutons.
Oui, je voulais vous poser quelques questions au docteur. Il y a 10 mois de cela, j'ai fait une hypertension artérielle. J'étais à 17. J'ai été reçu par le cardiologue. Il m'a prescrit des traitements. Je voulais juste savoir, parce qu'il m'a dit que ces traitements sont à vie. Mais il y a 10, voire 2-3 jours, je ne prends plus les médicaments. Donc je voulais savoir l'avis du médecin, est-ce qu'il y a des inconvénients ou pas.
Mais André, j'ai moi aussi une question, pourquoi prenez-vous votre traitement de manière un petit peu aléatoire?
Parce que je me sens de temps en temps, je suis en forme, j'ai ma tension qui est à 10 parce que je la souviens constamment, 14-12. Je me dis pourquoi prendre un médicament tous les jours alors que je peux,
d'accord,
je me sens bien.
J'ai bien compris. Docteur Loga, que répondra André?
Oui, c'est vrai que prendre un médicament, c'est une contrainte pour tout le monde. Mais il n'y a rien de plus insidieux que l'hypertension artérielle. Quand on est énervé, dans la journée, on a tous une tension qui monte. Et puis la nuit, quand on est reposé, on a une tension qui baisse. Mais il faut que ça reste dans un certain couloir. Il ne faut pas que ça monte trop, il ne faut pas que ça baisse trop. Et quand on a une hypertension artérielle, quand on a comme monsieur une hypertension artérielle, ça va malheureusement demeurer toute sa vie. Donc il faut prendre un traitement quotidiennement. Pour éviter l'AVC, mais pas que ça, même pour l'infarctus du myocarde, pour l'artérite des membres inférieurs, et même pour les troubles de la mémoire ou les troubles cognitifs quand ils sera plus âgé. C'est tout bénéfice. Encore faut-il trouver le traitement qu'il tolère, qu'il n'oublie pas. C'est pas si simple, en fait.
Donc, pourquoi pas revoir le médecin si le traitement est mal toléré?
Tout à fait. Il y a beaucoup de classes de médicaments possibles.
Mais quoi qu'il en soit, il faut prendre son traitement.
Au quotidien.
Voilà, André. Voilà le conseil pour vous.
Non, il n'y a pas de possibilité d'arrêter. La pression artérielle va être un petit peu élevée chez vous. Toute votre vie, il faut l'abaisser. Et je vous dirais même que chez certaines personnes qui ont eu un AVC et qui ont une tension normale, on essaye même de la baisser. En anglais, je suis désolé, lower is better. Plus c'est bas, plus
mieux
vous
c'est.
Aurez la chance de ne pas avoir de pathologie vasculaire grave quand vous vieillirez.
Voilà, c'est bon pour vous André, vous avez noté le conseil docteur Logac. Dans un instant, nous allons revenir sur les facteurs de risque, continuer cet échange avec Margot et puis parler aussi de prise en charge.
Go Bethlehem, whoa. la que definirá tu vida. Que separa tu pasado de un futuro sin hawíes. Condenado sin la visa, esta línea no se pisa. Ni se puede ser arbitrario con razones indecisas.
47 Soul Border Control dans Priorité Santé. Nous sommes en compagnie du docteur Logac, chef de service de neurologie et neurovasculaire, et avec Margot, une jeune femme touchée par un AVC en 2018. Margot, je reviens vers vous. Vous êtes avec nous, Margot ?
Oui, oui, je suis là, oui.
Vous dites, vous pensez, vous êtes même persuadée que le stress a joué un rôle dans l'AVC que vous avez eu.
Oui, parce qu'en fait, je suis enseignante, j'ai un souci de perfectionnisme accru, et du coup, j'étais très 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 stressée. Et puis après, voilà, le métier d'enseignant en collège est quand même très stressant parce qu'on doit gérer beaucoup de choses. Et à côté de ça, j'étais jeune maman, j'avais eu un problème de santé avec mon allaitement qui avait duré plus d'un an, donc mon corps était épuisé. Et je pense qu'effectivement, il y a eu. Si j'avais été un peu plus détendue, peut-être que j'aurais été. Peut-être que mon AVC aurait pu être évité, mais ça, personne ne peut se prononcer en réalité.
Il y avait un contexte énorme de stress physique et d'épuisement. Docteur Logac, quels sont les autres facteurs de risque ?
Donc les autres facteurs de risque sont évidemment l'intoxication au tabac, le diabète, le cholestérol, et puis des facteurs familiaux aussi, mais qui sont pas très bien connus, qui sont pas médiés, on sait pas trop aujourd'hui, par des gènes. On n'a pas de gènes de l'accident vasculaire cérébral, mais on remarque parfois qu'il y a certaines familles qui sont plus touchées que d'autres. Ça, c'est tout un champ de la recherche actuelle.
C'est le cas d'ailleurs, Margot, dans votre famille. Votre frère a eu un AVC.
Alors, moi, déjà, ma grand-mère a eu un AVC en 2008. Et mon frère a effectivement a une pathologie cérébrale, mais il a eu un AVC provoqué suite à l'opération pour emboliser la zone de son cerveau qui avait sauté.
On a une question de Sarah en RDC. Ces derniers temps, j'ai mal du côté arrière du crâne. Est-ce un signe avant-coureur de l'AVC ? Les femmes sont-elles aussi victimes de l'AVC ? Docteur Logan.
Le mal de tête n'est pas un signe spécifique à l'accident vasculaire cérébral, loin de là. Il peut témoigner d'une migraine, il peut témoigner d'une méningite, il peut témoigner de plein de maladies. Ça incite simplement à consulter son médecin, à prendre sa tension, mais on peut pas dire que le mal de tête comme ça est forcément un prémisse AVC. En revanche, les femmes, oui, elles sont très touchées. En France, c'est une des causes de mortalité majeure chez les femmes.
Cancer du sein, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et quel que soit leur âge, les femmes peuvent être victimes d'accidents vasculaires cérébrales. Encore plus si elles fument et elles prennent la pilule.
J'allais vous demander si c'est cette association tabac-contraception qui accentue les chiffres, ou est-ce qu'il y a encore une fois une autre explication ?
Alors, il y a cette association qui explique le risque chez les femmes jeunes. Chez les femmes plus âgées, c'est un petit peu différent. Elles ne prennent plus la pilule. Mais parfois, il y a une maladie qui s'appelle la fibrillation auriculaire, qui est une maladie cardiaque rythmique, qui donne beaucoup d'accidents vasculaires, et plus chez la femme que chez l'homme d'un certain âge.
Margot, quelle séquelle vous a laissé cet AVC et vous empêche-t-elle de mener vos activités au quotidien ? On a compris que vous étiez une femme active avant cet AVC.
Alors, la liste des séquelles est longue. Accrochez-vous bien. Ma première séquelle, la plus importante, c'est l'aphasie. Donc, c'est un trouble du langage. Donc, au tout début, j'écorchais les mots, j'y étais très lent, je ne mettais pas dans le bon ordre, j'avais des problèmes avec la grammaire et la conjugaison.
Le docteur Logac,
oui, on vous comprend pourtant très bien, vous avez fait une super rééducation, j'ai l'impression, madame.
Oui, et oui, je dois reconnaître qu'en termes d'éducation, je suis tombée sur des soignants, des médecins exceptionnels, et je mesure ma chance d'avoir pu rencontrer toutes ces personne. Et c'est vrai que mes orthophonistes, moi je dis que c'est mes sauveuses, sans elles, je serais rien aujourd'hui, quoi.
Donc après, il y a quelque chose à faire, il y a beaucoup de travail à faire, et vous avez entrepris, c'est une vraie démarche qui doit se tenir sur un long terme. Et quand on n'est pas déprimé, quand on a le moral, on peut arriver à des résultats exceptionnels.
Parce qu'on entend cet élan vital chez vous, Margot.
Bah, oui, en même temps, ma vie n'allait pas s'arrêter à 33 ans, donc il était hors de question que je ne me relève pas. D'ailleurs, j'étais un petit peu inconsciente parce que j'ai cru qu'en 3 mois, ce serait réglé et que je passerais et que je reviendrais pour la rentrée du printemps à l'école. Bon, ben, ça fait 2 ans, j'ai toujours pas repris le chemin de l'école, mais j'y crois. Je crois en l'avenir.
Vous êtes enseignante en dessin. Est-ce que vous pouvez encore dessiner aujourd'hui? Je sais que vous faites cette BD, mais est-ce que vous pouvez dessiner comme vous aimeriez le faire?
Alors, je vais faire une précision. Je suis professeure d'art plastique, donc il n'y a pas uniquement le dessin. Et oui, je dessine. C'est vrai que quand j'étais à l'hôpital, j'essayais un petit peu de faire de la peinture pour voir si j'avais pas perdu, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Après, oui, je peux faire des choses, mais de manière beaucoup plus lente. Par exemple, l'aphasie me pose un problème pour tout ce qui est écriture, lecture et compréhension. Donc, par exemple, si je veux suivre un tuto de couture, je ne le comprends pas. Le détail des questions est trop difficile.
Docteur Logac, la capacité de récupération dépend-elle du délai de la prise en charge aussi ?
Oui, elle doit être précoce, la réadaptation, et elle implique le patient, évidemment, en premier lieu, mais plein de professionnels de santé, comme vous l'avez dit, des kinés, des orthophonistes, des ergothérapeutes, etc. Donc, la vie est bouleversée, mais c'est la vie, et c'est long. C'est plus long que dans l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire, c'est pas en termes de semaines ou de mois, c'est en termes d'années, comme le dit...
Comme nous l'a très bien dit Margot. Mahamat se joint à nous dans cette discussion. Mahamat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Tchad, nous vous écoutons.
Ok. Bon, j'ai une question à vous poser. Il s'agit de ma maman qui a fait un AVC en année 2012, contre moi. Et puis après, elle a été mise sur réhabilitation et puis il y a des faits là 3-4 ans qu'elle ne fait plus quoi, cette réhabilitation. Mais vu qu'entre-temps, elle n'avait pas un traitement ni pour sa hypertension, donc actuellement, il y a de cela un an, elle est sous traitement, quoi. Donc, j'aimerais savoir s'il y a une possibilité qu'elle pourra récupérer le fonctionnement de son main, c'est-à-dire la main gauche et le pied gauche, quoi. Puisque jusqu'à maintenant, elle a encore des difficultés. Elle ne peut rien tenir que ça, quoi.
Et Mahamat, durant un temps, vous vous êtes occupé d'elle et par la suite, c'est votre frère qui a pris le relais. C'est bien ça ?
Effectivement.
Docteur Logac, la récupération au cœur des préoccupations post-AVC ?
Oui, tout à fait. Alors, en règle générale, elle est plutôt à l'œuvre dans les premières années, dans les 2-3 premières années. Mais c'est une moyenne. Donc, on ne peut pas, sur un individu donné, dire c'est cette durée-là, ça peut être plus rapide, ça peut être plus long. Dans le cas de cette dame, moi j'aurais tendance à conseiller de refaire un bilan médical parce que ces problèmes d'incontinence décrits par notre auditeur, ils sont pas habituels et puis ces problèmes de rein aussi méritent un bilan médical assez approfondi avant de pouvoir dire il n'y a plus de possibilité ou il y a une possibilité. Je pense que il faut reprendre la problématique de votre maman avec un œil un peu neuf, un œil médical un peu neuf. Et puis évidemment, ça dépend aussi de la qualité de ce qu'elle a pu avoir avant. A-t-elle vraiment pu bénéficier de kiné de manière intensive ou pas? C'est une vraie question.
Oui, on a entendu qu'il y a une interruption dans ses soins.
Donc, je pense qu'il faut réanalyser la problématique de votre maman avant de se prononcer. Et il n'est pas hors de question de condamner les choses, même si c'est vrai. En général, la récupération est plus précoce que chez elle.
Donc, Mahamat, il faut reprendre les choses au début et voir quels peuvent être les ajustements. Merci, Mahamat. Margot, on vient d'écouter Mahamat à l'instant. Lui a été aidant durant un temps. Aujourd'hui, c'est son frère auprès de leur mère. Votre compagnon est votre aidant à vous. De quelle façon vous êtes-il ?
Alors, déjà, c'est mon aidant principal. Puis après, c'est vrai que ma famille et ma belle-famille m'aident aussi.
Ça, c'est
donc
important.
Mon compagnon, oui, c'est très important parce que sans eux, clairement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Ils ont été d'un soutien très très important, que ce soit ma mère, mon père, ma belle-mère, mon beau-père, tous les frères, mes frères et sœurs, les frères et sœurs de mon conjoint, tout le monde a été toujours petits soins pour moi, et c'est vrai que sans eux, je ne sais pas comment j'aurais fait.
Docteur Logac, oui, excusez-moi Marco, oui, docteur Logac,
c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en neurologie, on percevait pas la difficulté d'être un aidant. Et maintenant, ce qu'on dit dans beaucoup de maladies neurologiques et dans l'AVC, c'est qu'il faut aussi aider les aidants. Parce que c'est pas facile d'aider et c'est primordial.
Je vous renvoie la balle, Margot, votre compagnon.
Alors moi, mon compagnon, déjà, il a été formidable parce que il s'est pas arrêté de travailler. Il a tout géré tout seul, mon administratif, s'occuper de mon fils, tout en continuant à travailler pour assurer un revenu dans notre foyer. Et il a tout pris à bras le corps et il s'est complètement oublié. C'est-à-dire qu'à 35 ans, il s'est retrouvé avec une compagne handicapée, mais il a décidé de continuer à mener sa barque, de pas flancher, d'être là. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup. Et c'est vrai que les aidants ne sont pas très reconnus. On ne comprend pas leur rôle alors qu'il est primordial.
Même si en France,
les gens qui sont isolés, c'est très difficile pour eux.
Même si en France, les choses bougent pour les aidants et qu'on commence à mieux prendre en compte aussi leur situation. Alors qui l'aide, lui, votre compagnon, justement ?
Alors aujourd'hui, plus personne ne l'aide en réalité, puisque je suis rentrée à la maison que j'ai pris le parti de réapprendre à faire le maximum de choses toute seule. Donc aujourd'hui, ça s'équilibre entre nous deux. Mais c'est vrai que pendant toute mon hospitalisation, pendant 5 mois, il s'est retrouvé à devoir tout gérer. Et heureusement, là, effectivement, qu'on avait la famille autour pour pouvoir nous soutenir, parce que lui, il fallait pas qui flanche moralement. Et d'ailleurs, il est très, très gêné quand les gens lui disent « Qu'est-ce que tu as été courageux ?» Et sa réponse est toujours de dire « Mais vous croyez quoi ? Que j'allais l'abandonner comme ça alors qu'on a un enfant ?» C'est pas une preuve de courage, ça s'appelle juste la vie et l'amour.
Faites
et
attention, ça, on va vous piquer votre compagnon Margot là.
Oui, il est formidable, j'espère qu'il l'entend.
J'espère qu'il l'entend et que tout le monde peut l'entendre. Nous accueillons Francis. Francis, c'est à vous d'entrer dans la discussion, vous êtes à Cotonou.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue, on vous écoute, allez droit au but, j'ai envie de dire.
Oui, c'est effectivement, le 30 juin dernier, j'avais eu un AVC et ça avait commencé par des douleurs atroces à la tête. J'étais seul à la maison. Heureusement, dans le même temps, une amie est venue me voir et a constaté que j'avais les nerfs de la tête qui ont commencé par gonfler. Ma voisine aussi est intervenue et c'est elle qui a même remarqué, a dit « Ah, il est en train de faire un AVC, il faut le conduire à l'hôpital ». Ils ont appelé le médecin, ils m'ont amené à la clinique. Entre-temps, j'avais déjà vomi à plusieurs reprises, j'avais chaud. Et puis, arrivé à l'hôpital, je ne comprenais plus rien, j'étais complètement perdu. Mm-hmm. J'avais perdu connaissance. Et ils m'ont admis à Aria. J'ai passé 6 ou 7 jours. Et pratiquement 10 jours plus tard, que j'ai pu avoir une idée de là où j'étais, je délirais. Voilà. Quand je me suis retrouvé, j'ai posé la question. Bon, on m'a pas encore expliqué ce qui s'est passé pour que j'en arrive là. Les médecins m'ont dit que c'est un AVC hémorragique. Et que, bon, heureusement, ils m'ont traité. J'ai pas eu beaucoup de séquelles à part les douleurs, fatigue, mon bras droit plutôt, et mon pied gauche, qui ne bougeait pas bien. Heureusement, ça va un peu maintenant.
Ça va mieux. Donc, pas trop de séquelles, mais vous êtes toujours en arrêt maladie. Et ce que vous voulez savoir, c'est ce qui a pu provoquer l'AVC et y a-t-il un risque de rechute, docteur Logac?
Exactement.
D'accord, on a bien compris.
Oui, il y a deux hypothèses, je pense, à envisager chez Francis, qui sont d'ailleurs peuvent s'associer. Premièrement, a-t-il eu à ce moment de l'accident vasculaire une poussée d'hypertension artérielle? Et donc, moi, je l'invite quand même à surveiller sa tension, lui, plus qu'un autre, et à voir si sa pression artérielle reste normale ou si elle est élevée et nécessite un traitement. Et deuxièmement, quand même, et ça a peut-être déjà été fait, dans les hémorragies cérébrales, il faut voir si Francis n'aurait pas eu une malformation vasculaire, c'est-à-dire un petit angiome ou un petit anévrisme qui aurait pu saigner. Ça peut se savoir, en faisant même aujourd'hui un scanner ou une IRM, on peut vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie qui risque de ressaigner. Donc, prendre en charge l'attention, de toute façon, c'est très important, et vérifier si ce n'a pas déjà été fait, que monsieur n'a pas une malformation vasculaire, qui est d'ailleurs peu soignée, qui a présidé à la survenue de cet accident hémorragique. Mais il a bien récupéré, heureusement.
Oui, on entend que vous exprimez très bien. On entend que vous avez envie de retrouver le chemin de votre activité aussi professionnelle. On vous souhaite bonne chance, surveillez votre tension et effectuez ces vérifications avec des professionnels de santé. Merci Francis.
Merci
à vous Margot. Vous avez créé une BD intitulée « Mon petit AVC » parce que quand vous êtes arrivée à l'hôpital, le médecin vous a dit « bon, finalement, c'est un petit AVC ». Vous avez aussi un compte Instagram du même nom. Comment est née cette idée et quel rôle cette BD joue-t-elle dans votre récupération aujourd'hui?
Alors, l'idée, c'était vraiment laisser une trace pour mon fils, pour qu'il comprenne quand il sera plus grand. Et en fait, c'est venu de mes temps de pause entre les rééducations, parce que j'étais à l'hôpital et j'y suis restée 5 mois, j'ai en centre de rééducation. Et je voulais occuper mon temps entre les rééducations, et du coup, j'ai commencé à dessiner mon histoire et à la poster sur Instagram pour que mes proches puissent la lire, mes amis, et que comme ça, il y a un lien qui se crée. Et puis, et progressivement, ça a pris de l'ampleur. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu pour moi à part entière un travail de rééducation, parce que ça me force à dessiner, ça me force à inventer un scénario. Alors, bien que tout ce qui soit raconté dedans est 100% vrai, il n'y a rien de romancé. Donc, ça me pousse à écrire, à réfléchir, à m'organiser, à concevoir le dessin. Et du coup, pour moi, c'est un exercice de rééducation à part entière que je mène à côté de ma rééducation quotidienne en libéral.
Docteur Le Gouac,
oui, quand on écoute tout votre parcours et tout ce que vous avez dû faire, et vous et votre entourage, moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de petit AVC. Ça n'existe pas. Un accident vasculaire, ça bouleverse la vie professionnelle, familiale, sociale, personnelle, psychologique. Donc, moi, je récuse le terme de petit AVC.
Mais n'est-ce pas une façon de lui dire à l'AVC de se positionner devant lui et
c'est
de
ça,
lui dire, voilà,
positif.
Je suis encore là.
C'est ça.
C'était surtout une blague avec ma kiné en centre de rééducation, puisque j'étais la plus jeune, hein, j'avais 33 ans. Et quand elle me présentait à d'autres intervenants, elle disait, c'est Margot, elle a 33 ans, elle a fait un petit AVC. Et moi, je lui disais, arrête de dire ça, il n'est pas petit, t'as vu comment il a foutu ma vie en l'air, je suis en fauteuil roulant, dis pas petit AVC. Et en fait, j'ai réalisé que oui, quand je comparais à d'autres personnes qui étaient très très handicapées, bon ben moi, il fallait le reconnaître, c'était un petit AVC. Et j'aime bien, je trouve qu'il y a un petit terme affectif, il est à moi, c'est le mien.
L'un des professionnels de santé au cœur de cette récupération, c'est le masseur kinésithérapeute.
RFI à Dakar, 92 FM.
Nous accueillons Emmanuel Knappen, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes masseur kinésithérapeute et directeur des soins de rééducation au centre de rééducation et réadaptation Jacques Calvé d'ailleurs, de la Fondation Opal à Berck-sur-Mer dans les Hauts-de-Seine. Bienvenue dans ce rendez-vous. Là où vous exercez, ce centre de rééducation se trouve, lui, au centre de l'équipement de pointe. Pourquoi vos équipements, mais également la thérapie que vous proposez, peut-être différente de ce qu'on retrouve ailleurs?
Alors, elle n'est pas différente de ce qu'on va retrouver ailleurs. Elle est simplement vraiment très pluridisciplinaire. Et comme on l'a dit avant au niveau des missions, il est important que toutes les professions qui peuvent prendre en charge ces AVC soient regroupées au même endroit pour pouvoir avoir la prise en charge la plus rapide et la plus complète possible dès le départ de l'AVC. Et c'est ça qui va permettre une récupération maximum dès qu'il y aura le potentiel chez le patient. Et c'est ça le plus important dans nos centres.
Quels sont ces professionnels?
Alors, il y a le kinésithérapeute, bien entendu, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, la psychologue, la neuropsychologue, les professeurs d'activité physique adaptée, les psychomotriciens. Alors après, il ne faut pas oublier aussi les infirmières, les aides-soignantes, qui dans les services sont les relais de la rééducation tout au long de la journée. Et c'est vraiment tout cet amalgame de professionnels de santé autour de cette prise en charge de l'AVC qui va donner le meilleur potentiel de récupération aux patients.
Que pouvez-vous nous dire de cette relation qui s'installe dans ce binôme de travail kiné-patient?
Alors, cette relation, en fait, on va l'établir dès qu'on va faire notre bilan et où on va avoir, en fait, cette capacité à se projeter sur une récupération et où on va pouvoir décider après quel va être l'intervenant majeur dans un premier temps de cette récupération. Et derrière, en fait, le patient va nouer une relation importante avec ce thérapeute qui va lui apporter les premiers conseils, les premières voies d'amélioration dans sa prise en charge.
Et à partir de quel moment le kinésithérapeute commence à intervenir auprès du patient touché par un AVC ? Très vite ?
Le plus rapidement possible, en sachant que dans les 10 premiers jours, quand même, il faut être prudent, il ne faut pas non plus prendre trop massivement en charge, il faut prendre en charge le patient pour éviter les complications, mais après une dizaine de jours, là, on va pouvoir commencer à monter en charge. Après la phase aiguë, quand on arrive en subaiguë, la prise en charge de l'AVC avec tout ce qui va aller avec, la mise au fauteuil, la verticalisation et puis les mobilisations les plus rapides possibles.
Est-ce qu'il y a un type d'AVC qui laisse plus de séquelles qu'un autre ?
Alors, comme l'a dit le docteur Logac précédemment, non, en fait, il n'y a ni de petit ni de gros, il y a un AVC, et en fait, c'est extrêmement compliqué. Il y a des AVC où, en fait, il y a des séquelles invisibles, et il y en a d'autres où il y a des séquelles visibles. Donc, on va toujours imaginer que celle où la séquelle visible, c'est l'AVC qui est le plus majeur, mais il y a des séquelles invisibles, et notamment l'aphasie, qui sont dramatiques, en fait, pour les patients. Donc, c'est impossible de dire dès le départ, en fait.
Mais alors, il y a toujours cette question, jusqu'à quel point la rééducation permet-elle une récupération ?
Ah, ça, c'est toujours la grande question que nous pose le patient dès le départ. Est-ce que je vais récupérer ? Oui, vous allez récupérer, mais jusqu'où ? Jusque ça, on est incapable de le dire dès le départ. En fait, c'est au fur et à mesure des bilans qu'on va faire et des récupérations qu'on va obtenir, on va pouvoir se donner en fait des objectifs. Et le plus important dans la relation qu'on va avoir avec notre patient qui a fait un AVC, c'est de fixer des objectifs atteignables à chaque fois qu'on va arriver à un niveau de la rééducation. Si on lui promet des choses qu'on n'est pas sûr de tenir, là, ça va être très très compliqué dans cette pathologie-là, comme dans toute pathologie, hein. Mais encore plus chez l'AVC, il faut qu'on ait des objectifs atteignables et qu'on puisse les graduer avec le patient pour qu'il soit toujours dans un facteur de réussite.
Quel est votre message de sensibilisation en tant que kinésithérapeute ?
La répétition et ne pas baisser les bras. Parce que souvent, comme on l'a dit précédemment, il y a aussi cet aspect dépression, fatigue. Et donc, il faut travailler en ayant juste la limite de sa fatigue et de ne pas oublier que c'est très long. Très très long, comme ça a été dit, comme plus de deux ans. Et parfois, il y a une rééducation qui va presque être à vie, à un moment avec des phases où on va pouvoir s'en passer, mais des phases où il va falloir revenir pour éviter de perdre les acquis qu'on a eus au départ.
Merci beaucoup Emmanuel Knappen. Je rappelle que vous êtes directeur de centre de rééducation à Berck-sur-Mer. Et après Berck-sur-Mer, direction le Mali, la prévention de l'AVC, c'est un combat mondial.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
Nous poursuivons notre discussion autour de l'AVC et nous accueillons le docteur Seibou Hassan Diallo. Bonjour docteur Diallo.
Bonjour madame.
Vous êtes neurologue au CHU Gabriel Touré et maître assistant à la faculté de médecine et d'odontologie, stomatologie, je m'en sors, à Bamako. Bienvenue dans Priorité Santé.
Merci pour le plaisir que vous nous faites.
Plaisir partagé. Qui sont ces acteurs qui participent à la sensibilisation à la prévention des risques d'AVC au Mali ?
Et les acteurs, c'est les cliniciens surtout neurologues, accompagnés par les médecins généralistes, et la kiné, les kinésithérapeutes, et puis bon, il faut associer les ondes des médias, que ce soit la presse écrite ou la presse orale ou audiovisuelle.
Et cette information arrive-t-elle au public, au grand public ?
Cette information arrive, oui, quand on voit la situation de Bamako. Bon, on va se dire que le Mali ne se limite pas qu'à Bamako.
On est d'accord.
Parce que de plus en plus, on se rend compte que le recours précoce à l'hôpital est une pratique de plus en plus courante, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Donc je pense que c'est parce que la population commence à comprendre tous ces messages éducatifs en matière de prise en charge sur les AVC.
Le message commence à passer. Quel est le réflexe à avoir alors en cas d'AVC, particulièrement au Mali, qu'on soit touché par l'AVC ou qu'on soit en présence d'une personne touchée par un AVC?
C'est d'abord l'alerte et le recours à l'hôpital le plus vite possible. Il ne faut pas rester à la maison avec...
Là, il faut se déplacer.
Il faut se déplacer ou alors appeler au secours. Parce que de toute façon, l'organisation de Bamako fait que Bamako est divisée en zone de district sanitaire et pratiquement à chaque niveau... On peut recourir au personnel facilitant le déplacement des malades parce qu'on ne pourra pas demander aux familles de déplacer des malades quand encore il y a des risques à les déplacer.
Quel est l'âge moyen des patients que vous rencontrez et constatez-vous que cet âge tend à diminuer comme on le constate un petit peu partout?
Bon, l'âge moyen, c'est vraiment, il faut dire de plus en plus maintenant, c'est quand même l'âge de production, c'est l'âge 40, 55 ans, c'est reste encore une pathologie du sujet jeune. Hein.
Ça reste une pathologie du sujet jeune.
Ouais.
Dans la prise en charge que vous mettez en place, il y a plusieurs volets. Il y a ce volet de prévention, on en a parlé, de traitement et de réinsertion professionnelle. Sur ce dernier point, comment les aidez-vous à reprendre pied avec le monde professionnel?
Alors, dès que les AVC arrivent, il faut avoir un plan de prise en charge. Ce plan de prise en charge, lui, va comprendre le traitement et la prévention secondaire, c'est-à-dire que éviter que d'autres AVC surviennent et réduire le risque de handicap engendré par l'événement vasculaire. Et cette réduction de handicap ne passe autre que par la participation active des services de kinésithérapie.
Et à quel frein peut se heurter la prise en charge?
La prise en charge, vraiment le frein, c'est le gros problème, c'est la méconnaissance. C'est-à-dire que la plupart aujourd'hui, j'ai dit Bamako, le réflexe de consulter tout est là, mais le Mali ne se limite pas à Bamako. Donc la méconnaissance d'abord.
Mais dans tout le pays.
De l'AVC pour la plupart de la population. Et après, c'est l'adhésion au plan de traitement, parce que pour adhérer à un plan de traitement, il faut comprendre le problème. Mmh. Et donc, si on n'adhère pas au plan de traitement, donc le plus important du traitement étant, une fois l'AVC constitué, dans notre contexte où on a difficilement recours à la thrombolyse, donc c'est vraiment la kiné, l'accès au service de kiné constitue pour nous un blocage. Et l'autre, il y a l'accessibilité géographique des populations. C'est pas tout le monde qui a accès aux structures de santé. On peut faire un AVC, avoir une journée ou plus d'une journée avant d'avoir accès à la première structure de soins dans certains endroits du Mali.
Donc là, on anéantit complètement le pronostic, les chances de récupération.
Absolument. L'accessibilité géographique est un facteur assez limitant. Et après, il y a l'accessibilité financière. Aujourd'hui, des gros efforts sont mis en œuvre au Mali, notamment l'assurance maladie universelle que l'État a mise en place, mais c'est pour des fonctionnaires. Ceux-là qui n'ont pas un emploi ou qui ont un revenu fixe, ceux-là qui n'ont pas de revenu fixe, eh bien sûr, leur prise en charge va constituer un problème.
En quelques mots, docteur Diallo, votre message de prévention, de sensibilisation?
Mon message de prévention et de sensibilisation, c'est vraiment la prévention primaire. Empêcher d'abord aux événements vasculaires de survenir.
Je vous ai dit en quelques mots, docteur Diallo, hein? On est d'accord?
Oui, bien sûr. Et cette prévention primaire va passer par la maîtrise des facteurs de risque. Et les principaux facteurs de risque dans la survenue d'un AVC, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est le surpoids. Il faut maîtriser ces facteurs, à savoir qu'un hypertendu doit comprendre qu'il doit prendre ses médicaments, il ne doit pas les négliger, qu'un diabétique doit prendre et respecter son régime, et que celui-là qui a un excès de poids doit adhérer à un programme d'éducation physique pour éliminer...
Merci docteur Diallo. Merci docteur Diallo. Je rappelle que vous êtes neurologue au CHU Gabriel Touré à Bamako. Merci également à vous docteur Logac. Je rappelle que vous êtes chef de service adjoint du service de neurologie et neurovasculaire du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Et merci à vous Margot pour ce très beau témoignage. Je rappelle que vous êtes une femme debout, une mère, une compagne, une dessinatrice et tout ce que vous avez envie d'être malgré l'AVC. Merci Margot. Napson avec Lengueno. Demain, une nouvelle discussion pour tous, mais exclusivement en compagnie d'auditrices. Mesdames, la parole n'est rien qu'à vous. Prenez-la. Priorité Santé répond aux questions de femmes sur ce thème migraine et céphalée. Le 00 33 1 84 22 75 75. Merci à C'est tous à maquiller, Ophélie Lassène, Louise Calédec et Didier Bleu. L'équipe Laurence Nau également. Prenez soin de vous tous. Prenez soin des autres et sortez masqués. C'est important.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.